Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale. Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudrie.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire vos idées.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Caroline, bonjour Anne-Marie.
Et coucou,
bonjour Guillaume, bonjour tout le monde.
Et voilà, nous nous retrouvons en direct, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission en direct, donc on risque d'avoir des bugs, voilà, on n'est plus tout à fait au point, mais bon, voilà.
Si, on va être parfait.
On va être parfait. Alors, en étant parfait, on va parler de quoi aujourd'hui, Anne-Marie?
Moi, je vais vous parler de l'actu people liée à la musique. Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi?
Mais moi, je vais vous parler de cinéma et j'honorerai une promesse de notre deuxième émission d'Actuel et lui. Je n'en dirai pas plus, je vais juste vous laisser écouter ce petit extrait.
Ah bah ça va être torride même. Enfin moi j'aurais eu besoin de dessins parfois pour tout comprendre limite parce que bon c'est quand même très très osé et
Oui donc on pourra peut-être avoir une version illustrée avec le film mais c'est vrai que ça...
On vous en reparlera à ce moment-là.
Voilà c'est ça.
Voilà donc voilà la promesse que nous avions faite et donc nous la tenons 2 ans après aujourd'hui.
Très fort Guillaume hein, quand même.
Tu as bonne mémoire quand même Guillaume.
Ouais, bon, dans 2 ans on a espoir de voir la banane d'Anne-Marie donc.
Peut-être. Bon et toi Caro?
Alors eh ben écoutez moi j'ai encore fait ma mauvaise élève donc je vais faire une petite revue de presse un peu light et un peu cinéma quand même. Hein.
Mais voilà impeccable. Tout à fait dans la thématique de notre émission.
Tout à fait.
Alors, on commence avec toi, Anne-Marie, et donc une actu people musicale.
C'est ça. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours sur la planète musicale? C'est ce que vous allez découvrir dans cette chronique. Alors, vous allez voir un très axé sur les artistes français. Je vais faire ma chauvine. Et
ça va beaucoup plaire à Ludo, ça.
Exactement. Ah bah, j'ai déjà eu...
Oui, la préparation voilà. Était un
nous
peu...
Nous avons échappé à la censure, il faut tout le dire quand même. On est un mois et demi après Charlie, nous avons échappé à la censure.
C'est cela. Et vous le sentirez aussi, c'est une chronique qui sera teintée de nostalgie.
Comme on aime.
Exactement. Alors commençons par les résultats des 30e victoires hein, de la musique, que les Français ont plutôt boudé. Puisqu'ils étaient seulement 2,3 millions hein, devant leur poste de télévision, devant France 2, soit 14% de part d'audience. Je crois qu'ils sont arrivés en troisième position, voilà, après TF1 et M6. Alors, comme vous le savez, la cérémonie a récompensé Christine and the Queen avec 2 prix, alors celui de l'artiste féminine de l'année et celui du meilleur clip pour Saint-Claude. Et à cette occasion, je vous propose d'ailleurs de réécouter hein, ta chronique que tu avais faite dernièrement, Guillaume, sur Christine and the Queen.
Avant l'été, juste avant l'été.
Qu'on peut retrouver donc sur le site internet de la radio. Alors, Julien Doré, quant à lui, est reparti avec la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année. Tandis que le chanteur Raphaël a fait sensation sur scène avec un maquillage inquiétant. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les victoires de la musique. Voilà, donc il y a eu beaucoup de commentaires suite à cette prestation. Alors, effectivement, hein, pour susciter la curiosité des téléspectateurs, il avait la bouche cernée d'hématomes. Donc certains internautes se sont même demandé s'il n'avait pas fait de la chirurgie esthétique. En fait, il s'agissait en réalité d'un simple coup de pub afin de promouvoir son futur album à quelques semaines de sa sortie. Une sorte de teasing, hein, grandeur nature, pour annoncer le futur somnambule. Pour ce 9e opus, des enfants maquillés aux faux airs de Joker illustrent le devant de la pochette, d'où ce maquillage. Mais arrêtons-nous 2 minutes sur le magnifique duo Souchon-Voulzy qui a remporté donc vendredi 13 février la victoire de l'album de chansons de l'année pour leur premier disque en duo. Alors à 70 et 66 ans, hein, Souchon et Voulzy incarnent depuis 1974 une des collaborations les plus fécondes de la scène française. Les amis ont donc sorti récemment un album. sobrement et simplement intitulé Alain Souchon et Laurent Voulzy, dont les critiques sont plutôt bonnes et unanimes. Voici celle, par exemple, écrite par l'Express. Donc, je cite, hein, c'est un disque voyageur qui parle beaucoup de périples, l'Atlantique Sud avec Antoine de Saint-Exupéry ou la Manche entre Ouistreham et Portsmouth, et de paysages d'Île-de-France, de Bretagne ou de Midi. Pas de grande surprise, mais une alliance parfaite entre les atmosphères rêveuses de Voulzy et la poésie faussement naïve de Souchon. Fin de citation. Alors, on aime évidemment leur humilité, leur timidité dans un monde du showbiz composé essentiellement d'égos surdimensionnés. On aime leur balade poétique sur des mélodies douces et tendres. Et je vous propose d'écouter un extrait de la chanson « Derrière les mots ». Plutôt discret depuis la sortie de son dernier album « Des roses et des orties » en 2008 et de son hommage rendu à Bob Dylan avec quelques reprises en 2012. Cela faisait quand même 7 ans qu'il avait quitté la scène, mais rassurez-vous, Francis Cabrel revient. L'interprète de « Petite Marie », « La Corrida » ou encore « Des murs de poussière » va sortir un nouvel album au printemps prochain avant de prendre la route pour une tournée dans toute la France d'octobre à décembre. Alors si vous voulez le voir sur scène, sachez que le chanteur fera escale à Tours, Mérignac, Grenoble, Saint-Quentin, Paris, Strasbourg, Marseille et surtout à Montpellier qui est quand même beaucoup plus proche.
Oui, parce qu'aller le voir à Strasbourg, c'est quand même un peu plus compliqué.
Mais exactement. Bon.
Alors, c'est une très jolie ville, Strasbourg. Ça fait une très jolie balade.
Tout à fait. Tout à fait. C'est très agréable. C'est une très belle ville.
Alors, lui, par contre, vient d'annoncer qu'il ne va plus monter sur scène à l'occasion de la tournée Star 80 qui cartonne pourtant dans toute la France. Et pour savoir de qui il s'agit, écoutez ce petit indice sonore.
Ouais, on a reconnu, c'est bon, là, on sait.
Mais oui, on sait. Alors, brushing impeccable hein, sur une chevelure épaisse, sans le moindre cheveu blanc, blazer sur les épaules, pantalon en cuir ultra moulant. Jean-Luc Lahaye ne prend pas de rides depuis des années, hein, à tel point qu'on en oublierait presque que l'interprète de Papa Chanteur a 62 ans. D'ailleurs, lui-même a oublié son âge, hein, parce que si par curiosité vous surfez sur son site officiel, vous serez surpris ou surprise, mesdames, de constater que Monsieur Lahaye est né le 23 décembre 1958, ce qui voudrait dire qu'il n'a que 57 ans. Sauf que Jean-Luc Lahaye est né le 23 décembre 1952. Mais alors, si le chouchou de ces dames fait les gros titres de l'actualité ces derniers jours, ce n'est pas pour la sortie d'un nouvel album de reprise, mais parce qu'il est convoqué pour, je cite, donc « corruption de mineurs aggravée par l'utilisation d'un réseau de communication électronique et l'âge de la victime, et puis détention d'images pornographiques représentant des mineurs ». Pas joli, joli. Rappelons que le chanteur avait déjà été condamné début 2007 à 10 000 euros d'amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans. Alors Jean-Luc Lahaye, qui n'a pas coché la case de poète dans son CV, a expliqué ceci, donc là je le cite, hein, « Moi, je vais plus loin que mater. Si je peux séduire une fille de 20 ans, je ne me gêne pas, bien sûr. C'est mon signe extérieur de jeunesse. C'est interdit, ça, peut-être que je vais choquer, mais je ne suis pas le seul artiste. Il y a aussi Claude François, Johnny, Gainsbourg, enfin tout le monde, quoi. Bon, faudra juste lui dire au passage que certains sont morts. Oui, je préfère les jeunes. Je me vois mal tenir la main d'une femme de mon âge dans la rue ou me coucher avec. Bien que ça m'est arrivé aussi parce que j'aime les femmes et que toutes les femmes sont belles à tout âge, mais j'ai une certaine attirance pour les plus jeunes. Fin de citation. Alors, pour celles qui seraient intéressées, hein, la star des années 80 préfère les jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Donc, tu vois, Caroline, là, c'est...
C'est foutu.
Voilà, je suis navrée. Mais t'es pas la seule, parce que elle, bah, c'est pareil, avec ses 85 printemps, on est sûr... qu'elle ne rentrera. On est sûr qu'avec ses 85 printemps, elle ne rentrera pas dans les critères de sélection de Jean-Luc Lahaye. C'est bien sûr Régine.
Je pense qu'on aurait pu l'envoyer à l'Eurovision.
Oui, si tu veux.
Ça aurait vous toujours été mieux qu'Isa Angel.
Que Lara Fabian a fait un flop
oui,
en Italie.
Oui, oui.
Il faudra quand même qu'on en parle.
Ouais, mais ça en plus, ça doit être affreux pour elle. Ah il y a quand même, voilà, maintenant à un certain niveau, c'est sûr que ça a dû être difficile pour l'ego, pour le coup.
Bon, elle est notre grande Zoa.
Alors, Régine, la reine de la nuit, hein, n'a pas du tout envie de prendre sa retraite. Elle a effectivement annoncé qu'elle serait de retour sur scène dès le mois d'octobre prochain jusqu'en juillet 2016, à l'occasion d'une grande tournée d'une trentaine de dates. La première tournée depuis 1969, ambiance cabaret assurée. Alors, l'artiste a confié, hein, je la cite, « Je suis en pleine forme. Retrouver la scène et partir en tournée, la première fois donc depuis 1969, comme je viens de vous le dire, avec Gilbert Bécaud. » Et plus que du bonheur, c'est une jouissance. Et elle a ajouté, il y aura 4 musiciens, dont un accordéoniste, un contrebassiste. Je reprendrai toutes les chansons que les gens adorent avec plein de souvenirs et d'anecdotes. Alors, pour rappel, les petits papiers, les femmes ça fait péder, Reine de nuit ou la grande Zoa, comme tu viens de le dire, Guillaume, sont ses plus grands tubes. Et justement, petit cadeau, on écoute un extrait des petits papiers.
Les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machin, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on s'en fout, laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
Bon, bah, du coup, c'était pas un extrait, c'était la chanson.
Bah oui, en plus, on s'est mis à chanter dans
mais
le studio.
Oui. Bah, voilà. On aime bien cette chanson, oui, voilà. On l'aime bien. Puis elle est pas censurée, alors c'est bien aussi.
On assume.
Bon, alors finissons cette chronique avec une autre devinette. Allez, si je vous dis Manu Reva, vous me répondez.
Ah, Caroline. J'ai un trou là.
Un champ fort.
Un champ fort.
Ah, oui, merci Guillaume. Toi, tu n'avais pas de trou. Ou enfin, tu avais surtout la réponse sous les yeux.
Ah non, mais voilà, ça t'aérise dans ce studio.
J'avais des fiches.
Alors le 13 avril prochain, donc bientôt, Alain Chamfort sortira son premier album depuis 12 ans quand même, hein, baptisé tout simplement Alain Chamfort. Je pense qu'il a un petit peu copié sur ses copains Woolsey et Souchon. Alors, ayant retrouvé l'un de ses paroliers fétiches, Jacques Duval, il a pu composer les musiques de ses 11 nouvelles chansons. Alors, la musique hein, laisse justement une place assez large au clavier sur des textes évoquant les méandres de l'amour et des rencontres. Joy, le premier single sorti dernièrement, peut-être que vous l'avez déjà entendu sur les ondes, a des faux airs des tubes des années 80 avec un refrain assez entêtant. Et je vous propose justement d'écouter ce single.
Ce qui est quand même, juste avant d'écouter, juste pour réagir deux secondes, c'est quand même fou que ce soit seulement les artistes les plus âgés qui aujourd'hui sortent des chansons originales, parce qu'au final, tu en as déjà parlé, mais il y a de plus en plus de reprises et les jeunes font de plus en plus de reprises. Et au final,
Que ça marche. Ça marche, effectivement. Oui, on est très sur la nostalgie. Et puis, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Les jeunes n'arrivent pas à sortir de nouvelles chansons. Ils vont plutôt aller sur la facilité en reprenant des tubes anciens. Et effectivement, les chanteurs qui commencent à se faire un petit peu vieux, entre guillemets, je crois qu'Alain Chamfort, il a la soixantaine, je ne sais plus si c'est 62 ou 66. Mais effectivement, lui, voilà, il sort un nouvel album. Mais je pense aussi que. Il en a un petit peu rien à faire puisqu'il avait sorti déjà un album il y a pas si longtemps que ça, bon, et ça avait pas trop marché. Je pense que voilà, il y a un moment donné où il se dit je prends pas trop de risques, même si ça marche pas, tant pis quoi. Mmh. Les jeunes, c'est un peu plus compliqué.
Voilà. C'est sûr. Ouais. Alors donc on écoute Joy de
d'Alain Chamfort.
Joy, un long baiser à la groseille, c'est comme ça que tu me réveilles, que tu fais briller. Et le soleil Joy, tu souris, tout devient radieux, tout ça me fait cligner les yeux, j'en suis tout ébloui, grand Dieu. Je suis qu'un singe en hiver, au printemps je vais devenir.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Bien, alors nous nous retrouvons dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Et donc, Guillaume, tu vas tenir une promesse faite il y a donc 2 ans.
Et oui, je vais vous parler de cinéma, puisque comme 2 millions de Français, je suis allé voir le week-end dernier les fameuses 50 nuances de Grey, puisqu'on ne l'avait pas dit tout à l'heure, mais voilà, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors si vous suivez depuis notre...
T'avais vraiment rien à faire ce week-end alors.
Mais écoute, voilà.
Mais laisse-le enfin.
Le week-end d'avant, j'étais allé voir Papa ou Maman, qui
excellent.
Qui est un film, oui.
Ah, c'est tout.
Purge.
Ouais, pas.
Ah, moi j'ai bien aimé.
Oui, c'est sympa, mais.
On m'a dit que c'était lourdingue.
Je trouve que ça manquait d'un peu de folie, un peu. Au final, c'est triste. Enfin, je trouve un peu.
Bon.
Je trouve qu'on reste sur. Enfin bon.
Mais tu l'as vu avant ou après 50 nuances de Grey?
Avant, c'était le week-end d'avant. Donc bon, si vous nous écoutez depuis notre deuxième émission, vous saurez que j'avais commencé à lire le fameux ouvrage qui a excité bon nombre de ménagères ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais n'ayant pas fini, je me suis dit que...
Ah, tu t'es arrêté à quelle page?
Autour de 100, 150, je crois.
Bon, là, ça t'avait vraiment pas plu.
Non, mais je trouvais ça très lent. Enfin, je trouvais que ça mettait beaucoup de temps à se mettre en place.
Tu coques.
Oui, on va y revenir.
Guillaume est un homme d'action.
Plus,
c'est
plus
ça.
C'est lent, plus.
Non. Bon, non, c'est plus, c'est long. C'est différent.
Ah, c'est ça, d'accord.
Bon, donc n'ayant pas fini, je me suis dit que j'allais profiter du film pour voir ce qu'il se passait dans ce bouquin. Et puis bah, finalement, on verra peut-être tout à l'heure que finalement, j'aurais pas vu grand-chose de réellement de ce qui se passe dans le bouquin. Enfin bon, donc ce film correspond à l'adaptation donc du best-seller de d'Erika, je sais plus son deuxième prénom, James. Tu nous l'avais dit, Anne-Marie. Premier tome d'une trilogie, donc Anne-Marie nous avait effectivement fait la description dans sa deuxième chronique. Et je vous propose d'écouter ce qu'en disait Anne-Marie à ce moment-là.
Honnêtement, 50 nuances de Grey aurait très bien pu commencer par « Il était une fois, la belle Anastasia tomba sous le charme du beau Christian ». Et la saga aurait pu se terminer par « Et ils eurent beaucoup d'enfants », par exemple. Et là, forcément, vous allez me dire « On sort les violons, on sort les mouchoirs ». Donc c'est vrai que c'est un résumé très, très, très condensé, mais qui reste malgré tout assez fidèle à l'histoire des 3 tomes écrits par Erika Leonard James. 50 nuances, c'est le phénomène de librairie le plus important après Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le premier tome s'est arraché à plus de 65 millions d'exemplaires dans le monde. Bah, en réalité, c'est à cause ou grâce au voyeurisme. Le lecteur suit la romance de ses 2 amoureux, alors une romance quelque peu épicée, puisque c'est un livre érotique qui nous permet de réviser un grand classique du genre, le Kama Sutra. Enfin bon, réviser ou découvrir, hein, ça dépend peut-être de certains et de certaines. Effectivement, il y a donc du sexe. Et c'est là où l'auteur britannique a tiré le gros lot, c'est qu'elle a réussi donc à utiliser une histoire complètement banale de 2 jeunes qui s'aiment, ma foi... Ça se trouve tous les jours, mais elle a rajouté un petit élément, un ingrédient même phare en fait de cette saga, c'est le sadomasochisme. Et il n'en fallait pas plus pour que les ménagères de moins de 50 ans vivent par procuration les fantasmes d'Eli James, qui au passage a 50 ans. Et la mayonnaise a tellement bien pris que la saga suscite un intérêt soudain pour ce genre littéraire réservé avant, il faut bien être honnête, à une élite de bibliophiles ou d'érotomanes. Aujourd'hui, hein, si on veut être à la mode, si on veut être in, il faut avoir lu 50 nuances. Et quelque part, cette trilogie a décomplexé les femmes. On peut aujourd'hui acheter un livre coquin dans une librairie sans avoir honte, sans en rougir, en fait.
Voilà, donc il y avait 65 millions de lecteurs déjà en 2012. Donc je vous laisse imaginer où nous en sommes aujourd'hui. Bon voilà, ça fait toujours bizarre de se réécouter avec 2 ans d'écart. Hein.
J'étais jeune à l'époque,
ah, c'est ça.
Jeune et insouciante.
Donc le pitch du film, hein, bon, il faut le faire quand même. Anastasia Steele doit interviewer...
On n'avait pas compris.
Non, c'est ça. Doit interviewer le richissime homme d'affaires Christian Grey pour le journal de sa fac pour rendre service à sa colocataire Kate Kavanagh. Elle ne peut y aller elle-même. Elle se rend donc compte qu'elle est séduite par cet homme, mais celui-ci va lui proposer une relation peu conventionnelle, vous l'avez compris dans les mots d'Anne-Marie. Innocente et naïve, elle est irrémédiablement attirée par ce bel homme, brillant et intimidant.
Bon, alors comment ce film s'est-il passé ? Préparé.
Alors, ben oui, courant 2012.
Moi, je crois que c'était les femmes qui s'étaient précipitées au cinéma. J'ai un peu de.
Eh ben non, ça, pas tant que ça. Hein. Enfin, beaucoup de jeunes. On va y revenir tout à l'heure.
D'accord.
Je te propose qu'on parle d'abord.
Des séances spéciales femmes quand même. Un
ah
peu partout,
oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, je vais quand même revenir, si vous voulez bien, sur un petit peu la naissance de ce film, puisque Anne-Marie, tu nous en avais déjà parlé en 2012, en disant qu'effectivement plusieurs studios étaient intéressés pour obtenir les droits de cette trilogie, et donc Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal Pictures, ou encore la société de production de Mark Wahlberg. Bon, c'est donc finalement Universal Pictures et Focus Features qui ont obtenu les droits donc de la trilogie en mars 2012. En juin 2013, donc l'auteur L. James annonce que Sam Taylor Wood dirigera l'adaptation de son roman. Alors il y a eu là aussi une flopée de réalisateurs potentiels et Allociné nous dit que Angelina Jolie, a décliné l'offre de cette réalisation. Donc voilà, Sam Taylor Wood, qui est donc une réalisatrice, a donc ensuite organisé un petit peu la rédaction du script avec l'aide donc de la Britannique Kelly Marcel, mais ça tu nous en avais déjà dit deux mots, Anne-Marie. Et puis donc ensuite, il y a eu Patrick Marber qui est revenu aussi pour retravailler le scénario, et enfin Marc Bomba qui est venu comme script doctor. Donc voilà, beaucoup de monde autour du berceau de ce film et de son scénario. Alors, Will James révèle sur Twitter que son premier choix pour le rôle de Christian Grey était Robert Pattinson, mais dès la confirmation du projet, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les noms de l'actrice et de l'acteur choisi pour les rôles donc d'Anastasia et de Christian. Alors, on parlait notamment de Mila Kunis hein, à ce moment-là, ou encore de Ryan Gosling. Et puis, bah, finalement, en septembre 2012, Dakota Johnson, la fille des acteurs Melanie Griffiths et Don Johnson, est confirmée dans le rôle principal féminin. Et dans la foulée, Charlie Hunnam est officialisé dans le rôle de Christian. Et quelques jours plus tard, ses choix sont vivement critiqués sur Internet. Certains internautes créent même une pétition et demandent qu'Alexis Bledel et Matt Boomer remplace Dakota Johnson et Charlie Hunnam. Alors Matt Boomer, c'est le voleur dans FBI Duo très spécial qui passe sur M6 et sur W9.
Que Guillaume adore. C'est ça, hein, il nous en a déjà souvent parlé.
C'est ça. Environ donc un mois plus tard, Charlie Hunnam quitte finalement le projet officiellement pour cause d'emploi du temps incompatible avec sa série télévisée Sons of Anarchy. Mais plus tard, il est révélé que l'acteur, en plus d'être touché par l'accueil mitigé des internautes, a voulu quelques réécritures du script que le studio a refusé, et son salaire était finalement trop faible pour ça. Donc, quelques jours plus tard, c'est Jamie Dornan qui le remplace officiellement. Alors, c'est un paradoxe, hein, l'info vient d'Allociné. Jamie Dornan a déclaré ne pas vouloir être filmé totalement nu dans le film. C'est quand même un peu dommage pour un film de cette
nu
thématique.
Devant.
Non, il a déclaré ça.
De pas être... Parce qu'apparemment, je crois qu'il voulait pas qu'on voit son sexe, mais les fesses, ça le dérangeait pas.
Non, il voulait pas être entièrement vu, voilà, nu.
Mais t'as pas vu ses fesses.
Si, mais pas en même temps tout le temps.
D'accord. Enfin, mais par contre, t'as pas vu son sexe.
Séparer les deux.
Non, mais par contre, t'as pas vu son sexe parce que je crois que c'était bien marqué dans son contrat, c'est stipulé. Il voulait pas qu'on le voit.
C'est ce que j'avais lu aussi.
Tout à fait. Mais bon, après, on est quand même aussi dans une réalisation américaine, donc il y a quand même un certain puritanisme dans la façon dont les choses sont tournées. Hein. Mais on va y revenir. Donc, pour Jamie Dornan, il ne faut pas montrer gratuitement la nudité, mais la suggérer pour attirer le public. Bon. Malgré tout, et afin de paraître le plus crédible possible, l'acteur a fait de nombreuses recherches sur les pratiques sadomaso. Il a notamment
c'est sa femme qui doit être contente.
Oui, elle a déclaré d'ailleurs qu'elle n'irait pas voir le film. Il a déclaré qu'il était allé visiter un donjon BDSM à Vancouver au Canada où a été tourné le film. L'acteur s'est préparé au rôle de manière méticuleuse, allant jusqu'à apprendre à marcher différemment, puisque l'acteur avait pour habitude de poser d'abord ses orteils en premier, au lieu de poser ses talons d'abord, comme le fait Christian Grey dans le livre. Donc il a vraiment travaillé aussi cet aspect-là. Tout en conservant un bon souvenir du tournage, l'acteur précise que les scènes osées et de nu de ce film sont très délicates à tourner. À noter que la réalisatrice a pris la décision de tourner toutes les scènes de sexe durant les deux dernières semaines de tournage, afin de permettre aux deux acteurs de jouer le reste du film de manière plus légère, sans avoir la gêne des scènes osées.
Juste par rapport donc à ce Jimmy, tu nous as pas dit, enfin après je sais pas si tout le monde le connaît, mais il a joué par exemple dans Once Upon a Time.
Oui, il a été mannequin aussi. Voilà.
Et c'est vrai qu'il est plutôt beau gosse. Moi je trouve ça un petit peu dommage dans le film qu'il soit en fait rasé. Parce que ça lui donnait, je trouvais justement, un peu de classe et ça le vieillissait. Enfin, ça lui donnait plus de charisme, je trouve. Voilà.
Oui, après, par rapport au personnage de Christian Grey, je pense qu'il colle finalement assez bien.
Pas du tout. Moi qui ai lu le livre, je m'attendais pas du tout à ce genre d'acteur. Je m'attendais justement à quelqu'un de plus viril, quelqu'un de brun, qui. Pas à la police comme ça. Enfin, qui fait très, très gamin, quoi.
De ce que j'en avais lu, ça pouvait être la représentation que j'en avais. Bon, enfin bon. Voilà. Après, bon, on va parler un peu de sa coéquipière. Hein. Donc, téléloisirs.fr reprend le Daily Star qui indiquait que la jeune comédienne Dakota Johnson avait utilisé une doublure pour la scène de sexe final. Bon, on vous dit tout, hein, de toute façon, voilà.
Il y a du sexe dans ce film.
Ou Christian Grey la fouette avec une ceinture. Mmh. Donc, une information, qu'a reprise, donc, le Daily Mail. L'actrice a déclaré que, effrayée par les coups, elle ne voulait pas qu'il y ait un gros plan sur des fesses se faisant frapper par une ceinture. Ce n'était pas les miennes parce que je ne voulais pas être fouettée par une ceinture. Voilà. Malgré tout, elle a quand même volé un martinet de l'équipement de la chambre des supplices de Christian Grey à l'issue du tournage.
Je veux dire. La coquine.
Voilà. aucun film à Hollywood n'a quand même fait l'objet de telles mesures de confidentialité de la part d'un studio, affirme la réalisatrice. Le film portait même un autre nom pour toute l'organisation extérieure du tournage, c'est-à-dire qu'il réservait pour un film. Voilà, c'était l'histoire de deux chiens qui étaient le chien de la réalisatrice et de l'auteur qui était présente sur le tournage.
Ils sont fous, ces Américains.
C'est ça.
Bon, mais alors, Guillaume, maintenant que tout ça est bien décrit, tu nous en dis quoi de ce film? Parce que les critiques n'ont pas toujours été fabuleuses à la sortie, là, il y a quelques jours.
Effectivement, hein. Avant même sa sortie, il est reproché à ce film le peu de fidélité au roman. Donc ça, je ne peux pas totalement le dire, puisque effectivement, je ne l'ai pas lu en entier. Mais le long métrage a vraisemblablement édulcoré les scènes érotiques, et qui étaient décrites de façon très crue dans le roman, puisqu'au final elles occupent au grand maximum une vingtaine de minutes dans les deux heures du film. Alors il y a des minutages qui sont à 11 minutes, mais bon, après voilà, tout dépend de ce qu'on considère comme voilà.
Après, c'est sexe, enfin, je sais pas. Ils s'embrassent, tu considères pas ça comme une scène de sexe?
Non, mais après, bon, c'est les différentes estimations des différentes personnes.
Dans tous les cas, si c'est 11 ou 20, avec c'est très peu sur deux heures de film.
Alors que le livre est quand même largement structuré autour de ces aspects-là. L'auteur était présente pour rappeler les fondamentaux du livre sur le tournage, mais la réalisatrice dit je n'ai pas lâché sur ma propre liberté. Bon, ce qui confère au film des écarts par rapport au roman. Alors les premiers avis n'ont pas empêché l'annonce quand même de l'adaptation des deux autres romans comme suite, hein, évidemment, confirmée officiellement par la réalisatrice et l'auteur lors de la projection de l'avant-première. Alors, pour ce que j'en pense, moi, je trouve que c'est un film extrêmement lent.
Et donc pas long, hein, on est bien d'accord.
Lent,
hein.
Voilà, c'est ça. Très lent, une lenteur qui permet sans doute aussi à cette logique de domination de s'exprimer, mais on aurait pu imaginer au moins que les scènes de sexe, justement, explosent le rythme et qu'on passe dans quelque chose de différent, mais on est toujours dans quelque chose de lent, voilà. Pas dire autre chose.
Alors, si les scènes de sexe explosent, enfin, c'est d'autres films, ça, non?
Non, mais voilà, on aurait pu imaginer qu'il y ait un peu de folie justement qui s'exprime par le rythme de la réalisation, et c'était pas vraiment le cas. Alors, après, effectivement, si vous y allez pour voir du sexe, vous serez déçus, car donc les scènes de sexe sont peu présentes. De toute façon, peu explicites, on reste quand même dans un certain puritanisme des Américains. Parce que, bon, bah, voilà, c'est, enfin, voilà, c'est pas un film porno, hein, clairement.
En même temps, il est interdit qu'au moins de 12 ans en
France.
Oui,
mais on va y revenir.
On se doute bien que.
Oui, 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 tout à fait. On retrouve chaud, aussi,
bah, le livre non plus, d'ailleurs.
Le livre n'est pas interdit.
Non.
On retrouve aussi, donc, les 50 nuances de gris, parce que là, vraiment, la couleur grise et les ambiances, sont vraiment dans cette tonalité, dans ces tonalités-là. Le livre se passe en été, mais là, le film a été tourné plutôt en hiver. Mais on retrouve vraiment cette couleur grise. Après, l'appartement, en tous les cas, moi, je trouve qu'il colle relativement bien, en tous les cas, sur l'aspect très blanc, très épuré de ce que j'avais pu lire aussi du roman. Voilà, c'est un film bon qui m'a pas vraiment convaincu, sans doute aussi parce que j'aime bien les happy ends et que donc j'étais un petit peu déçu par cette fin. Bon, après, personnellement, je ne trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire de permettre une large fréquentation des plus jeunes à ce film, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de très jeunes qui y sont allés. Bon, voilà, la Commission nationale en France a autorisé aux plus de 12 ans. Bon, Anne-Marie nous disait lors de sa chronique il y a 2 ans que le film serait sans doute interdit aux moins de 16 ans. Il a été classé R aux États-Unis, hein, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Voilà, je trouve que ça aurait été presque mieux parce que bon, voilà, tout le monde peut faire. Enfin voilà, le modèle de sexualité ne me pose aucun problème si les personnes sont consentantes, mais je suis pas sûr que ce soit forcément le modèle à promouvoir de base, on va dire, auprès de la jeunesse. Voilà.
Non, en fait, j'ai pas compris. Du coup, tu trouves que c'est bien que ça soit interdit aux moins de 12 ans en
non,
France ?
Non, je trouve que.
Préféré que ce soit au moins de 16 ans.
Ouais,
ou
ouais, ah oui. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Je trouve que ça aurait été pas plus mal que ce soit moins de 16 ans.
Voilà. Bah, ça tombe bien, moi j'ai interdit à ma fille d'aller le voir.
Voilà.
Oui. Après, moi j'étais un petit peu choquée.
Pas interdit, je m'entends, je ne l'ai pas attachée dans sa chambre, mais franchement, en plus, vu les critiques, je lui dis qu'elle avait mieux à faire, quoi, qu'il y avait certainement mieux à voir.
Je pense, effectivement. Oui, oui, tout à fait.
Moi j'étais juste un petit peu choquée quand justement je suis allée voir Papa ou Maman au cinéma. Papa ou Maman, c'était un public très familial. Il y avait justement des petits qui avaient 7-8 ans et on a vu la bande-annonce de ce film. Alors évidemment, encore une fois, on ne voit pas grand-chose. Mais quand même, je trouve des scènes assez explicites.
Oui, il y a une ambiance quand même.
Je trouvais,
je n'ai vu que la bande-annonce.
Oui. Je trouvais que c'était pas, c'était pas super, voilà, de mettre la bande-annonce avant un film très familial. C'est comme si on mettait 50 nuances degrés avant la Maya l'abeille, quoi. On sait qu'il y a que des gamins. Mmh. On met pas ça, quoi. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage, mais bon.
Après, voilà, moi, j'ai absolument aucun problème avec ce modèle de sexualité-là. Ça me pose pas de soucis. Enfin voilà, mais je dis juste que.
Ah, mais moi j'ai aucun souci, voilà, non plus, mais après voilà, on pense aussi aux plus jeunes.
Non,
même
c'est pas dans une logique de dire il faut empêcher de le voir, c'est pas du tout ça, c'est juste de dire que c'est peut-être pas le modèle à promouvoir en tous les cas. Voilà. Et qu'il y a sans doute d'autres choses effectivement tout aussi intéressantes, voire beaucoup plus.
Puis va expliquer ça après à toi, tes gamins. Papa, maman, qu'est-ce qu'ils font là?
C'est ça. Voilà.
Bon, et donc ce film connaît malgré tout un gros succès en France.
Et oui, comme l'indiquait Allociné hier, hein, puisque ça faisait donc une semaine d'exploitation, ça démarre quand même très très fort pour les 50 nuances degrés. 2 millions de spectateurs en une semaine en France, c'est le meilleur démarrage de 2015. Et c'est même bien au-delà donc, de Taken 3, dans la lignée de Superchondriaque et de Lucie en 2014, ou de Iron Man en 2013. On est vraisemblablement vers un objectif de 4 ou 5 millions d'entrées en fin d'exploitation sans aucune difficulté. Voilà. Alors le film est sorti conjointement aux États-Unis et là aussi il y a de très très bons retours de cette phase de commercialisation. Donc effectivement il y aura des suites qui vont arriver. Alors après on peut se poser aussi les questions des raisons de ce succès. Et, bon, je vous propose d'évoquer la chronique de Magali Crozet Calisto qui est sexologue clinicienne thérapeute dans le Huffington Post. Qui voit 50 nuances degrés comme un conte de fées modernes. C'était un petit peu ce que tu disais en racontant l'histoire, d'ailleurs, dans ta chronique. Au-delà de la clé, alors je vous lis ce qu'elle dit, au-delà de la clé du succès de 50 nuances degrés se trouve peut-être dans cette dialectique même, c'est-à-dire dans la faculté à redonner du rêve, quelque peu transgressif et pimenté à toute une société désabusée, pour ne pas dire désenchantée. Avec ses penchants romantiques, sa trame narrative improbable et ses tendres baisers échangés entre deux évocations dangereusement sadomasochistes, l'intrigue redonne au spectateur ce je ne sais quoi d'ingénuité, candide et d'inexpérience valorisée. L'ingénuité qui ferait que tout est encore possible et que tout est encore curieusement désirable dans une inquiétante étrangeté digne des meilleurs contes de fées. Voilà, croire à un conte de fées moderne, voilà certainement ce que permet 50 nuances de Grey. Point de transgression, juste la sensation de découvrir, redécouvrir un monde excitatoire où l'idée même de la douleur devient contrat d'expérience en toute sécurité. Voilà, c'était une petite réflexion qui permet aussi de prendre un petit peu de recul avec ce succès. Alors enfin, vous savez qu'on peut souvent juger du succès en s'intéressant aux parodies. Et donc le parisien.fr en évoque quelques-unes et les nombreux détournements sur Internet. Alors ces parodies jouent sur le titre, l'imagerie sadomasochiste du roman et désormais du film. Alors certaines marques s'y sont mis, on a eu 50 nuances de gras avec le Périgord, avec enfin bon, voilà. Et parmi tous ces détournements, le plus drôle, moi, enfin en tout cas celui qui m'a fait le plus rire, c'est donc le PS qui a intitulé un document 50 nuances de gris. Et c'est donc une contribution sur l'adaptation de notre société au vieillissement de la population. Un clin d'œil donc à l'humour de notre président sans doute.
Je n'ai pas vu celle-ci.
Voilà. Et donc, bah, pour terminer, je vous propose d'écouter une chanson qui bouge, justement, qui va un petit peu plus vite que le film. Et puis, on aurait sans doute aimé... Enfin, peut-être, on aurait pu attendre, peut-être aimé, je ne sais pas. Mais on aurait pu attendre un peu plus de boum boum dans ce film. Donc, bah, je vous propose d'écouter Boum 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 de Mika.
Foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends des kilos des tequila. Je chante des chansons d'un calçon. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. En entrant dans le dressing room, quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans les ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le thé et le coup, il y a le temps faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Maslow. Soit plus loin ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. S'aimer comme ça c'est pas.
Quand toi et moi on fait boum 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 boum
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Ah ben voilà, on se retrouve pour cette troisième partie. Et donc, Caro, tu restes dans le cinéma, mais avec de la petite qualité légère.
Je vais plutôt rester dans le boom-boom, là, si vous me permettez, pour une toute petite info.
Vas-y. Voilà.
Parce que je suis tombée ce matin sur une info qui m'a paru intéressante, puisque c'est une espèce de droit de suite à ce que Guillaume a évoqué deux émissions durant les dernières fois, c'est-à-dire ces sites internet dédiés à l'infidélité. Alors, c'est pas celui dont Guillaume nous a parlé, dont je vais vous parler moi, mais quand même, puisque c'est très tendance, ces sites internet sur l'infidélité, parce que du coup, je suis allée voir et j'ai notamment vu tous ces articles consacrés à cette forte mode qui marche. Et donc, depuis quelques jours, les associations familiales catholiques, AFC, donc, attaque en justice le site Glidden, qu'elles accusent de promouvoir l'infidélité en violation du code civil. Alors Glidden, c'est 2,3 millions de membres, principalement en Europe, plus d'un million en France notamment, qui promeut donc les aventures entre personnes mariées. Derrière alors je cite l'avocat des AFC, Henri de Beauregard, qui dit « Derrière l'infidélité, il y a des enfants, des familles brisées et des drames familiaux ». Pour les AFC, Glidden, en facilitant l'adultère, fait la promotion publique de la duplicité, du mensonge et de la violation de la loi. Alors, il faut quand même préciser là que l'infidélité n'est plus une faute pénale depuis 1975. L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Alors, en fait, tout ça est venu... Tout ça a été suscité par une publicité dans les transports parisiens. Alors c'est une pomme qui est croquée et le slogan est « Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu ». Voilà, alors une pub bien sûr un peu provoque et qui a donc provoqué les associations familiales catholiques. Voilà, je tourne ma page. Ces publicités, après une campagne... un peu virulente des AFC, ont disparu des bus, notamment à Poissy, Rambouillet et Versailles, dans les Yvelines, avant la fin de la campagne qui était prévue le 9 février. Censure, clame le site Glidden, donc. Le réseau Keolis, lui, a décidé de retirer cette publicité pour répondre aux attentes des voyageurs, explique un de leurs porte-parole. Après avoir reçu 500 réclamations en une semaine, contre environ 900 par an habituellement. Voilà, le maire de Versailles, qui n'est pas à l'origine de cette interdiction, a pourtant approuvé cette décision. Alors, il faut quand même savoir que Versailles, Glidden n'a pas que des détracteurs, avec plus de 11% d'infidèles. La commune est en cinquième position de son classement des villes qui trompent le plus. Voilà. Bon, tout ça est drôle. Glidden, quand même, estime être dans son bon droit, les publicités ayant été validées par le jury de déontologie publicitaire et Média Transport, une des régies publicitaires des transports en Europe. Et, un petit peu sournoisement, Glidden glisse « On n'oblige personne, c'est un service que l'on rend ». Voilà, donc c'était le petit droit de suite à Guillaume avant de vous parler cinéma.
Ouais, sachant que Ludo m'en a encore envoyé, mais je garderai ça peut-être pour...
Il y aura donc un quatrième épisode.
Non, je pense pas. Ouais, je pense qu'il va falloir que je revienne à des sujets un peu plus sérieux quand même.
Voilà, donc j'avais envie de vous parler une petite revue de presse cinéma rapide, mais j'avais notamment envie de vous parler, parce que j'adore ce réalisateur, du dernier film de Clint Eastwood, alors que je n'ai pas vu puisqu'il n'est pas encore sorti en Lozère. Il est sorti en France depuis hier.
On en entend beaucoup parler.
Voilà, mais qui fait quand même grandement polémique depuis sa sortie aux États-Unis. Donc c'est American Sniper de Clint Eastwood. Un film dont, le pitch, c'est le biopic de Chris Kyle, qui était un tireur d'élite considéré comme le plus redoutable de l'histoire militaire américaine, pour son service en Irak, où il aurait abattu plus de 160 personnes. Voilà. Alors, biopic de Clint Eastwood, qui réalise plus de 300 millions de dollars au box-office américain quand même, donc énorme succès, qui démarre très fort en France, hein, 4000 entrées à Paris en tête du box-office français hier, sur la journée d'hier, 6 nominations aux Oscars. Alors un film de guerre brillamment mis en scène, hein, on en attend pas moins de Clint Eastwood, mais dès la sortie, la presse anglo-saxonne s'est déchaînée contre ce long métrage en accusant le cinéaste d'avoir réalisé une hagiographie de Kyle et de signer une œuvre belliciste. Eastwood s'en défend en disant « Je pense que cette analyse est stupide, mon film n'a rien à voir, quelque part n'a rien à voir, quelque parti politique que ce soit », a déclaré donc le réalisateur au journal The Star. Voilà. Alors, il y a eu des défenseurs, il y a eu des détracteurs. Parmi les détracteurs, Michael Moore, hein, on se souvient de son documentaire Bowling of Columbine, qui a foncé sur Eastwood en l'accusant de confondre l'Irak et le Vietnam. Seth Rogen, co-auteur et acteur de L'Interview qui tue, qui a carrément comparé American Sniper au film de propagande qui conclut Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Et le soutien, par contre, de Michelle Obama à Clint Eastwood, qui a publiquement dit que l'histoire lui semblait un reflet juste de ce qu'endurent les soldats tentant de trouver l'équilibre entre l'amour pour leur famille et pour leur pays. Voilà. Alors, Eastwood, lui, donc, se défend d'avoir voulu réaliser une œuvre militante. Loin de glorifier l'armée, le réalisateur montre les désastres psychologiques irrémédiables que peut causer un conflit brutal sur ceux qui y ont participé, quel que soit leur camp ou leurs idéaux. Il dit, dans une interview au Monde, je ne sais pas... Alors, parce que ce qui lui est aussi reproché, c'est de ne pas mettre en exergue les responsables de ces tueries. Il dit « Je ne sais pas qui les envoie », en parlant des militaires. « Je ne blâme personne. Chacun pense qu'il a agi pour des raisons humanitaires. J'ai toujours eu des doutes sur l'idée d'apporter la démocratie dans les autres pays. Ce n'est peut-être pas le système qu'ils veulent ou qui leur convient. Je ne pense pas que nous devrions prendre des décisions pour le monde entier. J'ai toujours penché du côté libertarien pour un gouvernement plus petit et qui laisse les gens en paix. » Voilà. Alors, je tenais à en parler parce que moi, j'adore Clint Eastwood et je vais me précipiter pour voir ce nouvel opus.
Et puis, il a une classe incroyable.
Voilà, une classe. Enfin, bon, puis, moi, je pense qu'on ne peut pas l'accuser d'être belliciste. Enfin, je pense à Gran Torino. Enfin, voilà, je pense que.
Et la bande-annonce de ce film est, enfin, justement. Montre tout ce dilemme vraiment, enfin c'est assez, donc je pense que le film sera réussi, enfin en tous les cas la bande annonce était très réussie justement pour synthétiser un peu l'idée et un peu tous les débats qui se cachent finalement derrière.
Ouais. Alors bon, le programme du cinéma demande s'arrête cette semaine, j'espère que dès la semaine prochaine on pourra aller voir ce nouvel opus de Clint Eastwood, 84 ans hein, quand même.
Mais il est
un sacré bonhomme, hein, c'est une des légendes quand même du cinéma américain. Mais alors il n'est pas le seul quand même à faire polémique aux États-Unis puisque l'annonce des nominations aux Oscars ont secoué les médias puisque les annonces ont été faites le 5 janvier et tout de suite il y a eu polémique alors autour de Clint Eastwood avec parmi ses défenseurs les conservateurs qui ne souhaitent pas du tout qu'on touche à cette guerre en Irak. Mais à gauche, les critiques ont plu sur l'Académie des arts et des sciences du cinéma, cet organisme corporatif qui préside au vote et à la remise des trophées, qui a été implicitement accusé de racisme pour avoir négligé Selma, le film sur Martin Luther King de la réalisatrice afro-américaine Ava DuVernay. Donc des Oscars qui arrivent bientôt et qui sont sous haute polémique aux États-Unis. Alors ça m'amène à vous parler, dans ma petite revue de presse cinéma, d'un Américain qui, pour le coup, lui, ne fait pas polémique. Je parle de Sean Penn, qui est en France depuis quelques heures et qui sera demain soir l'invité d'honneur des Césars, cérémonie qui sera retransmise sur Canal+, en soirée. Il est arrivé ce matin, il est a priori accompagné de la sublime Charlize Theron, hein, sa nouvelle compagne. C'est un tombeur, hein, on le sait, Madonna... Robin White, il n'arrête pas le bougre. Il était reçu ce matin à l'Élysée par François Hollande en tant que président, directeur général et fondateur de l'organisation d'aide à Haïti. JP Asian Relief Organization, excusez mon accent. Sean Penn s'est en effet beaucoup investi dans l'aide humanitaire à Haïti après le séisme qui avait touché l'île en 2010. Voilà, et c'est donc demain soir qu'il sera à la cérémonie des Césars. Acteur mythique, personnalité engagée, réalisateur d'exception, Sean Penn est une icône à part dans le cinéma américain, une légende de son vivant, souligne l'Académie des Césars, donc dans son communiqué relayé par l'AFP. Aujourd'hui âgé de 54 ans, Sean Penn a obtenu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 97 pour son rôle dans le film de Nick Cassavetes, She's So Lovely, un drame avec Robin Wright, hein, qui est la mère de ses deux enfants donc, et dont il est divorcé désormais. Son rôle de père endeuillé, assoiffé de vengeance dans Mystic River de Clint Eastwood, lui vaut en 2004 son premier Oscar de meilleur acteur. La même année, celle qui est devenue sa compagne, Charlize Theron, donc remportait le prix de meilleure actrice pour Monster. Il récolte par ailleurs en 2009 une seconde statuette pour son interprétation de politicien militant pour la cause homosexuelle dans Harvey Milk de Gus Van Sant.
Très beau film.
Voilà. Sean Penn, c'est aussi un réalisateur, hein, puisqu'il passe derrière la caméra dès 91 avec un premier long métrage, The Indian Runner, suivi de 4 autres films, dont Into the Wild, qui en 2007 lui vaut une reconnaissance internationale. Voilà. Il a été président du Festival de Cannes, c'est lui qui a récompensé le film français Entre les Murs, notamment. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il sera présent au César. On se souvient que l'an passé, c'était donc Scarlett Johansson qui était à sa place. Et lui s'y était déjà rendu en 2009. Et il s'était même, à l'époque, fait draguer par Florence Foresti. Ça avait fait le buzz sur Internet. Et on peut retrouver la séquence sur YouTube. Voilà. À l'époque, donc, son film Into the Wild était nommé dans la catégorie « Meilleur film étranger ». Voilà, alors, ben, je pense que ça sera une belle soirée. Donc, on peut... Si vous le souhaitez, revenir un petit peu sur les nominations de ces Césars 2015.
Les nommés sont...
Alors donc, parmi les meilleurs films, on en a évoqué quelques-uns à ce micro déjà. On retrouve Les Combattants, Here Stand Boys, La Famille Bélier, hein, dont Guillaume nous avait fait une sacrée chronique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Hippocrate, Saint-Laurent, Sils Maria et Timbuktu.
Alors c'est le Saint-Laurent de...
D'Eric Altameyer.
Voilà, parce qu'il y en a eu deux. Donc,
ouais, ouais, tout à fait.
Et il y en a qui sont dans le...
Enfin, produit par Eric Altameyer et réalisé par Bertrand Bonello.
D'accord.
Voilà. Dans ces nominations, beaucoup se sont émis de ne pas trouver la fameuse comédie à succès de l'année, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Voilà, ben c'est comme ça, hein, c'est le choix de l'Académie des Césars. Je vous donne les nominés pour l'actrice et les acteurs.
Ah bah oui,
c'est toujours intéressant. Donc il y a Juliette Binoche dans Sils Maria, Marion Cotillard dans Deux jours, une nuit, Catherine Deneuve dans La Cour, Émilie Duquesne dans Pas son genre, Adèle Haenel dans Les Combattants, Sandrine Kimberlin dans Elle l'adore et Karine Viard dans La Famille Bélier. Voilà. Et puis, côté masculin, le meilleur acteur, sont proposés Nils Arellstrup dans Diplomatie, Guillaume Canet dans La prochaine fois, je viserai le cœur, François Damiens dans La Famille Bélier, Romain Duris dans Une nouvelle amie, Vincent Lacoste dans Hippocrate, Pierre Niney dans Yves Saint-Laurent et Gaspard Ulliel dans Saint-Laurent. Justement, donc les
voilà
deux.
Les
films.
Deux, voilà les deux incarnations du personnage de Saint-Laurent.
Alors, je redis là, j'en ai parlé la fois dernière, mais dans la catégorie meilleur espoir masculin, est nommé entre autres Ahmed Dramé pour Les Héritiers, cet excellent film que je vous ai vivement recommandé d'aller voir.
Et c'était bien, voilà, pour la révélation. Oui. Et non pour l'acteur.
Oui, oui, c'est meilleur espoir féminin.
Voilà.
Masculin, bien évidemment. Voilà.
Alors,
bien
je sûr, pense que dans le féminin, il doit y avoir Louane, j'imagine.
Je crois. Oui. Alors, attends, hein, je retourne ma...
Il me semble. Hein.
Oui, oui,
oui.
Voilà. Oui, non, il n'y a pas de... Bon, ben voilà, une belle soirée en perspective.
Belle soirée en perspective. Bon,
qu'est-ce qui l'anime ce soir?
Il y a toujours un peu des longueurs, alors je ne sais pas.
Parce qu'il y a eu un changement, je crois, un peu de... De
je
dernière
crois,
minute, mais je
ne saurais pas
plus
dire. Alors j'avoue, je suis prise en défaut là, je ne sais pas. En tout cas, juste, je vais finir, puisqu'on avait beaucoup parlé de La Famille Bélier ici, puis on s'était réjouis de ce film. Juste vous dire que Eric El Mosnino, qui est pressenti dans la catégorie meilleur second rôle masculin, pour son personnage de prof de musique, donc dans cette comédie, a répondu à une petite interview à Télé 2 Semaines où il dit oui, les Césars nous ouvrent leurs portes. Le seul regret, c'est que Eric, donc Eric Lartigot, le réalisateur de La Famille Bélier, ne fasse pas partie de la fête, alors que si le film est une telle réussite, il y est pour quelque chose. Je ne comprends pas, je trouve ça étrange. Quand on lui demande justement est-ce que du coup, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'est pas nominé, s'il se sent représenter la Comédie française, il dit je ne crois pas qu'on représente quoi que ce soit, on est notre film. Et par contre, il fait une petite déclaration un peu intéressante en disant on n'a pas encore parlé d'une suite, mais je pense que ce serait vraiment bien. Donc voilà, ben nous aussi on le pense. Donc voilà, j'espère
surtout
que...
qu'il y a vraiment des belles choses à faire avec effectivement
tout à fait,
la voix de Louane, toute la suite de l'histoire peut être...
Moi j'ai toujours du mal quand même avec les suites, hein, surtout quand on a aimé autant le premier volet, après on risque d'être déçu. Et voilà.
Alors je vous dis pas pour les 50 nuances de machin, hein, mais enfin bon. Voilà, c'était ma petite revue de presse cinéma
sur l'instant. Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter? Alors,
Je vais vous faire rire, c'est un peu une spéciale dédicace à Ludo. J'ai essayé de me dire...
Décidément.
Après, Michel Sardou...
Ça va lui plaire.
Mireille Mathieu,
tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver?
Demis Roussos, oui.
Et alors, c'est un peu Demis Roussos qui m'a mis sur la voie, parce que elle est au cinéma, c'est le lien avec ma chronique. C'est une chanteuse un peu âgée qui est au cinéma en ce moment dans un excellent film, Les Souvenirs. Qui est aussi à la télé en ce moment dans la moins bonne série d'Irée Anne-Marie Chef. Mais enfin bon, elle crève un peu l'écran en ce moment. Et je me suis dit, en pensant à Demis Roussos l'autre fois, que ça serait quand même un peu dommage d'attendre qu'elle ne soit plus avec nous pour lui rendre hommage. Et donc j'ai choisi Annie Cordy, la bonne du curé.
Ça fait un petit écho avec le premier sujet de ta chronique.
Tout à fait. Et donc spéciale dédicace à Ludo qui est ravi, j'en suis sûre.
Bien, mais je peux bien. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable qui est un bon diable me tire par les pieds et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas même un péché. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de Cosette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me la pêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours loin. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais ben aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude François. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas. Je suis la bonne du curé.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, c'est la fin de cet actuel élu. Alors, je crois que c'est un exploit.
Oui, c'est la première fois qu'on est dans le timing.
Ça fait très longtemps qu'on est effectivement dans un timing aussi, aussi calé. C'est l'avantage peut-être du direct. Nous nous étalons moins.
Et d'avoir une mauvaise élève qui fait pas très long, hein.
On a tous été, non, je crois qu'on a tous été dans nos timing. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne quinzaine, comme d'habitude. Vous pouvez nous réécouter le jeudi à 12h30, le mardi à 18h11. Oui, c'est même presque 12 maintenant, je crois.
Oula, oh, j'adore ces horaires de train, moi, de 48 FM.
Eh ben oui, mais c'est comme ça.
Enfin, sinon, on peut aussi nous réécouter sur le site internet.
Voilà, sur 48
le
FM.
Le numéro 2 où Anne-Marie parlait du livre, voilà. Nuance de Grey.
Et puis, un numéro de juin où on évoquait Christine and the Queens. Voilà. Les derniers numéros où on a parlé aussi de
l'infidélité et des sites internet.
Voilà, mais aussi de la famille Bélier, des héritiers. Etc.
Enfin bon, comme vous le voyez, nous sommes indispensables.
Voilà, si vous ne savez pas quoi écouter, franchement, bah voilà.
Ah mais c'est pas très positif, justement, écoutez-nous.
Mais oui, mais c'est ça.
Compilez-nous et écoutez-nous.
Si vous ne... oui, voilà, c'est ça.
Et réagissez, hein, vous pouvez nous écrire,
c'est ça.
Nous
insulter,
sur les réseaux sociaux, enfin,
nous envoyer des petits mots.
Nous serons ravis.
C'est ça. Bien, bah écoutez, à bientôt à tous.
À très bientôt.
Et puis ben bah, voilà.
Bonne quinzaine.
En bonne forme.
Actuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.